Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Petit, le directeur du département Corporate Réputation et expert RSE chez Ipsos, le troisième groupe leader des études de marché. Je suis ravie de t'accueillir dans l'Empreinte, Guillaume.
Bonjour.
Bonjour. Alors, on n'a encore jamais eu de représentant de groupe d'études, donc ça va être forcément un sujet qui va me passionner. Je ne suis pas du tout experte en la matière, mais d'abord, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, tu m'expliquais avant que t'avais fait un autre groupe d'études. En fait, t'as toujours été dans les études.
Oui, voilà. Ouais, bah écoute,
t'en es jamais sorti.
C'est quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse. Donc oui, je n'ai fait que ça. Donc j'ai fait 10 ans chez Kantar, qui s'appelait avant la Sofresse. Et ensuite, j'ai basculé chez Ipsos. Donc, ça fait 10 ans que je suis chez Ipsos.
Mais là, je vois bien que tu as quand même une casquette très RSE. T'as pas eu toujours cette casquette RSE?
Non, j'ai démarré dans les études d'opinion, les études politiques, les intentions de vote. Et ensuite, quand j'ai rejoint Ipsos, j'ai rejoint le département donc Corporate Réputation, qui, en fait, c'est un nom un peu ronflant, mais qui veut juste dire qu'on mesure et qu'on analyse l'image des entreprises auprès de leurs parties prenantes, donc c'est-à-dire le grand public, mais aussi la société civile, les ONG, les journalistes, les politiques. Et forcément, quand on s'occupe de l'image des entreprises, bah, on touche à la responsabilité sociale des entreprises. Donc, mais je suis expert, mais en fait, on est tous un peu experts, parce que tous mes collègues, ceux qui travaillent dans la marque, dans l'image, dans la satisfaction client, dans les études internes, dans les innovations, on travaille aussi sur la RSE, on travaille tous. On est
ça infuse.
Sur la RSE. Oui, ça infuse.
Mais c'est bien. Mais j'imagine en plus que tu as dû voir des commandes exponentielles sur ces sujets-là. Enfin, puisqu'on en voit, tous les jours, on a des chiffres. Donc j'imagine que s'il y a des. Alors d'ailleurs, je ne sais pas comment ça marche, mais on vous commande les études.
Oui. Alors, des commandes exponentielles sur la RSE, pas forcément.
Pas forcément.
On a beaucoup d'études, mais pas forcément uniquement sur la RSE. Après, il y a, oui, dans des tests d'INO, quand on lance des produits, on veut évaluer, forcément. Mais non, ça n'a pas forcément décuplé sur les études RSE.
Mais ces études, c'est plutôt des outils internes et de pilotage ou ça peut être aussi des outils de communication? Quitte à être taclé, on en parlait en off, d'avoir commandité l'étude et du coup de se dire « Ah bah tiens, voilà X, on est sobre ou je ne sais pas quoi parce que notre activité est jugée sobre. » Mais en fait, c'est nous qui avons commandité l'étude. Est-ce que finalement, ce n'est pas trop le cas?
Alors, nous, la majeure partie de nos études et de notre chiffre d'affaires, c'est 99,9%, ce sont des études confidentielles qu'on réalise pour des clients à leur demande. Et effectivement, après, il peut y avoir des études publiées. La majeure partie sont faites pour les médias eux-mêmes. Des partenariats avec des médias, je pense sur le niveau, au niveau politique notamment, au niveau des études d'opinion. Et après, il peut y avoir effectivement des commanditaires privés qui veulent s'emparer d'un sujet mettre en partage avec le public des données sur un sujet pour pouvoir être associés dans ce sujet. Et effectivement, pour que quand on parle de ce sujet, on parle de leur étude et on parle de leur nom. Alors après, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont utiliser l'étude pour mesurer la perception de leur entreprise ou pour dire du bien de leur entreprise. Ils vont juste vouloir parler du sujet. Pour y être associé.
Il n'y a pas eu trop de greenwashing, en fait, avec ça. Parce qu'on parle beaucoup de greenwashing, c'est un terme qui est hyper... mais il n'y a pas eu beaucoup d'utilisation de ces outils-là à des fins un peu de...
Des sondages, non. C'est plus peut-être en termes de communication qu'il y a du greenwashing. On dit qu'on fait ça et en fait, on en fait beaucoup moins. Mais sur les sondages, après...
C'est impossible. En plus, tu me parlais, c'était sécurisé. Il y a des questions... tout le process d'une étude est ultra sécurisé, il ne peut pas y avoir de...
Bah, c'est impossible, non. En fait, ça repose aussi sur l'éthique et le professionnalisme de l'institut d'études qui va dire, écoutez, là, on peut poser cette question comme ça, mais on ne peut pas la poser comme ça parce que c'est biaisé, parce que là, ça serait poussé dans un certain sens la réponse. Et nous, en tant qu'institut d'études, il faut qu'on garantisse des résultats objectifs, une manière de poser objective, impartiale. Et voilà, et après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des clients, quand ils réalisent une étude, qui disent « Ah, ouais, si on pouvait poser comme ça. » Mais nous, on essaie de leur expliquer, mais ça n'a pas d'intérêt ni pour vous, ni pour nous. Ça se voit, donc faut pas prendre les gens pour des imbéciles.
Du conseil presque en même temps, en plus dessus, quoi.
Nous, effectivement, une grande partie de notre boulot, c'est de savoir poser des questions de manière non biaisée, objective et impartiale, et de partager ce savoir-faire et de répondre à des problématiques des clients en posant les bonnes questions qui vont répondre à leurs questionnements, et encore une fois, de manière non biaisée, parce que je vais prendre un parallèle avec les intentions de vote, puisqu'on est en pleine campagne présidentielle.
Bah oui, justement, tu dois avoir tellement d'études là-dessus.
Oh oui, on en a énormément, il y en a énormément publiés, et avec chaque campagne présidentielle, on se reprend encore en boomerang, des intentions de vote biaisées qui veulent favoriser tel ou tel candidat, mais j'ai envie de poser la question, quel serait notre intérêt de favoriser tel ou tel candidat ?
En plus, si tu le mets en intention de vote, à l'inverse, tout le monde va vouloir aller rééquilibrer le truc et voter pour d'autres. Donc,
ouais, puis il y a un résultat final qui fait que si on aurait favorisé un tel ou un tel, nous, le but, c'est qu'on soit le plus proche des résultats. C'est pas qu'on favorise un tel et qu'on se retrouve à 10 points du résultat final.
Comment d'ailleurs ces échantillons sont faits ? Il y a tout type de sexe, c'est très d'âge, c'est varié, c'est inclusif, j'imagine, l'échantillon est aussi inclusif.
Alors, tout dépend des études. Si on fait des études sur des consommateurs ou des acheteurs de café...
Fonction du consommateur, quand même. Mais
pour les intentions de vote ou pour toutes les études publiées dans les médias, on est ce qu'on appelle représentatif de la population française, c'est-à-dire que on a la France en minuscule, en miniature, dans 1000 personnes, on a la même proportion d'hommes, de femmes, de vieux, de jeunes, de ruraux, d'urbains, de catégorisés, d'ouvriers, de retraités, que dans la population française. C'est ce qu'on appelle la méthode des quotas. Les Américains, ils ont une autre méthode, c'est de l'aléatoire. C'est-à-dire que le hasard fait bien les choses, et plus tu interroges de monde, plus au fond, au final, tu retombes sur des bonnes proportions. Donc,
d'accord, c'est deux méthodes différentes,
mais qui se valent.
Qui se valent, ouais. D'accord.
Et donc, nous, on a la méthode des quotas, et donc, on a notre échantillon représentatif de
France. On aime bien les quotas. Hein.
Ouais.
On est quotatisé. Ouais. Alors là, peut-être quand tu me parles, je vois de la data qui circule. J'ai l'impression que vous êtes assis sur des mines de data. Aujourd'hui, on sait que dans le numérique, bon, même si 80%, entre 80 et 90%, c'est vraiment la fabrication des devices sur le numérique qui a un impact. On sait quand même que la data et que tout cet usage numérique a aussi un impact environnemental. Comment vous, en tant que cabinet d'études, vous vous engagez justement avec cette data? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous l'exploitez? C'est sûr que vous l'exploitez, mais voilà. Comment vous faites pour réduire au maximum votre empreinte à vous aussi?
Alors, ouais, ça ne nécessite pas des serveurs gigantesques. Donc, je ne pense pas que ce soit l'impact le plus majeur pour nous, pour notre secteur en tant que cabinet d'études pour l'instant. Des moyens informatiques qui sont alloués, mais ce n'est pas des usines.
Ce n'est pas énorme. Ouais.
C'est pas énorme. On n'est pas des Google ou on n'est pas des GAFAM là-dessus.
C'est que c'est vous qui exploitez la data et vous n'en avez pas autant que Google. Non, mais c'est vrai que c'est évidemment dingue. Eux l'exploitent aussi, bien sûr, mais de façon beaucoup plus masqués. Vous, c'est ouvert, donc finalement, vous êtes presque l'open data, enfin, c'est vous qui la traitez, et tu me dis, nous, on n'a pas besoin d'énormes serveurs.
Donc... Ouais, alors, on la traite, on la garde. Là, on a fait d'énormes, moi, qui ai 20 ans d'expérience, qui suis déjà un vieux schnock, je vois la différence en termes, surtout, de papier, où avant, on envoyait et on imprimait des rapports à n'en plus finir, et où là, effectivement, de ce côté-là, on a fait d'énormes progrès. Après, la data, oui, soit on la garde, soit aussi on peut la donner et la mettre en accès en open source. Ça, c'est ce qui se fait de plus en plus quand c'est des études notamment publiées avec des médias ou même avec des commanditaires privés. C'est des choses qu'on peut faire. C'est des choses qu'on a fait dernièrement, qu'on fait depuis 3 ans, par exemple, avec EDF, où on fait une étude sur la perception du changement climatique qui s'appelle l'OBSCOP, donc l'Observatoire du changement climatique.
Il sort tous les combien ?
Il sort tous les ans. On le fait tous les ans depuis 3 ans.
Donc, période il sort à peu près?
Alors, généralement, c'est en fin d'année.
D'accord.
Et alors, c'est une étude très conséquente et vraiment, vraiment une belle étude dont on est fier parce qu'elle est réalisée dans 30 pays,
okay.
Donc auprès de 30 nationalités.
Où est implanté EDF, j'imagine?
Alors, c'est pas le critère de sélection, c'était plutôt d'avoir les pays les plus émissifs en termes de carbone autour du monde pour voir les perceptions et pour voir analyser, suivant le pays dans lequel on habite, quels étaient le ressenti, les comportements, les attentes et les perceptions des gens. Donc ça, c'est une étude qui est en open source. Donc nous, on est jamais propriétaire des données. C'est notre client qui les achète, qui l'est. Et là, EDF les a mis en open source pour pouvoir les rendre accessibles aux chercheurs, aux universitaires, aux académiques qui veulent s'emparer de ces données et les traiter eux-mêmes.
C'est top. Et il y a beaucoup d'études comme ça. Tu en vois beaucoup qui sont lancées comme ça en open source. C'est encore rare.
Pas beaucoup.
Ça devrait être l'avenir. Ouais. Je pense que c'est important. Mais c'est bien, tu vois, les entreprises qui nous écoutent, vous savez quoi faire. C'est hyper important, celles qui peuvent investir là-dedans, puisque j'imagine que ça a un coût, une étude. Donc, moi, demain, je lance ma start-up, je vais pas m'acheter des études. Enfin, c'est des grosses entreprises qui peuvent. Donc, finalement, il faudrait qu'elles investissent davantage pour ça.
Oui, complètement.
Et en quoi, quels sont vos engagements en matière de RSE? Puisque tu me dis que finalement, la data, c'est pas trop ce qui était le plus polluant chez vous. C'est quoi quand on est cabinet d'études?
Alors, les engagements, alors moi, je ne suis pas en charge de la RSE chez Ipsos, mais je sais ce qu'on y fait. Tu as des engagements qui sont, je dirais, un peu ceux de toutes les entreprises,
petites
ou grandes, sur les gens, sur les people, sur la planète. Donc, des enjeux de réduire son empreinte carbone, d'arriver à la neutralité carbone, des objectifs aussi en termes d'égalité salariale homme-femme. Voilà, ce qui nous spécifie plus en tant qu'Ipsos, c'est qu'on a une fondation et qui agit principalement en faveur des réfugiés, donc volonté d'employer des réfugiés dans le monde, et aussi de rendre l'éducation à des enfants défavorisés. Donc on a des programmes comme ça, de dons à des associations qui peuvent se faire dans différents endroits du monde.
Et toi, comment tu penses que va évoluer? C'est vraiment une question de philosophie à deux balles, mais je me dis... Le métier d'aujourd'hui, ton métier d'aujourd'hui, le métier de cabinet d'études, comment il va évoluer demain face à tous les enjeux qu'on a, climatiques, sociaux, etc. Tu penses qu'on va avoir davantage justement d'études en open source? Tu penses qu'on va avoir moins d'études parce qu'il faudra qu'on arrête de traiter de la data? Tu penses, enfin...
Bah, moi, j'ai assez confiance dans mon secteur. Je le vois notamment dès qu'il y a des incertitudes avec le Covid. On a eu énormément plus
les études,
de...
Les études, il y en a
tellement. Bah, oui. Alors qu'il y a 2 ans ou il y a 3 ans, on prédisait la mort des instituts d'études classiques.
Toutes vos données sont éthiques. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, on sait quand vous exploitez pas nos données à...
Ah, nous, pour les études grand public, on fait appel à des panélistes. Donc, c'est des gens qui ont donné leur accord pour qu'on leur pose des questions. Donc, eux,
c'est complètement différent.
Après, nous, on peut aussi exploiter les données des réseaux sociaux. Hein, c'est-à-dire qu'on on est en tant qu'institut d'études...
Vous pouvez lancer des études sur les réseaux sociaux?
Alors, on peut lancer aussi des... Oui, on fait plein de choses. Hein. On s'est aussi beaucoup modernisé. On ne fait pas les études comme on les faisait il y a 20 ou 40 ans. On a aussi, nous, on utilise la data sociale. On a nos propres outils. On a une entreprise qui s'appelle Synthesio, qui fait partie d'Ipsos, qui est spécialisée dans la récolte, le suivi de ce qui se passe sur les réseaux sociaux.
Mais du coup, quand tu lances un sondage, parce que moi qui suis assez suivi sur mes réseaux, je lance des sondages, sauf que je ne collecte rien. C'est-à-dire que je collecte le résultat, mais je ne sais pas qui a répondu et je ne veux pas savoir. Je les laisse, tu vois. Toi, tu peux aller carrément... sourcer qui a répondu. Non, tu peux pas.
Non, parce qu'après, il y a la CNIL, il y a des règles RGPD qui font que on doit respecter l'anonymat.
Ça rassure tout ça. Non, mais c'est important de rassurer les gens. C'est juste que tu as le résultat comme moi et qu'en fait, finalement, tout le monde demain peut se lancer, peut s'improviser, entre guillemets, cabinet d'études. Quoi. Même moi, tu vois, là, je te lance un sondage quand j'ai plus de 3000 répondants. Bah, j'ai déjà un bon...
Ouais. Alors, tu n'as pas un sondage, tu as une consultation. C'est-à-dire
une consultation,
que toi, tu n'es pas représentative. et c'est des gens volontaires qui répondent, donc qui seront représentatifs de tes auditeurs. Mais voilà, comme quand les médias, Le Figaro lance une étude sur son site, ce n'est pas un sondage, c'est une consultation. Ce sera des sympathisants de droite qui vont répondre et il n'y aura pas de sympathisants de gauche, donc ça ne sera pas représentatif. Cette demande d'information de qu'est-ce qui se passe, que penchent les gens, ce qu'ils vont vouloir, elle s'est accrue, ce que je te disais avec le Covid, où là, toutes les entreprises se sont dit, ah oui, tiens, est-ce qu'ils vont acheter, pas acheter, sortir, pas sortir, changer leur comportements de consommation, être plus enclin à faire attention au climat, à l'environnement ou pas. Donc nous, on a eu... Alors, il y a eu un petit tarissement au début parce que tout le monde était attentiste, mais très vite, c'est reparti. On a des données qui existent depuis des dizaines d'années. Donc, on voit les évolutions. Ce qu'on voit, c'est que l'environnement, le changement climatique, c'est des choses qui préoccupent beaucoup plus qu'il y a 10 ans. Ça a monté graduellement. Ça a atteint son pic en 2019, juste après, en France, le pic de chaleur où on avait une forte canicule. Et ensuite, ça s'est plutôt stabilisé. Alors, contrairement à ce qu'on disait, le Covid n'a pas renforcé les préoccupations pour l'environnement. On a beaucoup entendu ça, oui.
J'étais persuadé, moi.
Non, ouais, on a entendu la chauve-souris, la déforestation. donc, c'est à cause de ça. Donc, les gens se disent,
non,
bon, il faut
plus,
qu'on...
C'était plus la relocalisation, le fait d'être un peu plus simple et minimaliste, le fait d'avoir moins besoin d'aller... Enfin, moi, j'avais plus l'impression qu'il y avait une espèce de nationalisme qui était un peu...
Ah, tout à fait. Mais alors, attention, le nationalisme, il peut y avoir deux raisons écologiques, mais surtout, et c'est particulièrement fort en France, patriotique et économique.
C'est ça.
C'est-à-dire, on veut relocaliser pour avoir des emplois en France et qu'ils ne soient pas à l'autre bout de la planète.
Si finalement, on redonne un peu de soin à nos agriculteurs et qu'on mange local et qu'on fait du made in France, on devient écolo, donc finalement.
Exactement.
Mais c'est juste que c'est fait via un autre intérêt que celui de protéger la planète.
Et c'est tout l'enjeu de la RSE, parce qu'effectivement, pour les consommateurs, donc la préoccupation pour l'environnement a fortement augmenté, mais celle qui prédomine actuellement, c'est le pouvoir d'achat, le niveau des prix. Donc, le consommateur, quand il va faire ses courses, il ne va pas regarder d'abord si un produit est responsable, mais il va regarder s'il peut se le payer. Donc, c'est ça tout l'enjeu pour les marques, c'est d'arriver à vendre une valeur ajoutée responsable quand elle a lieu d'être, mais sans que le prix soit pour autant trop cher, parce que le consommateur, ce qu'il va regarder en premier, c'est...
Mais le prix du bio a quand même baissé, hein.
Ouais, mais les ventes de bio ont baissé aussi. Ah, tu regardes notamment les ventes de lait.
Il faut vraiment que le bio s'aligne. Enfin, même si c'est compliqué, je dis ça, mais les gens qui produisent bio ont des coûts bien plus conséquents. Mais en fait, il va falloir vraiment revoir le système complètement.
Ben, c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est quelque chose en plus. Et quand on n'est plus responsable, quand on est plus local, c'est des salaires qui ne sont pas payés à des ouvriers chinois, mais à des ouvriers français, donc c'est plus cher. L'ouvrier français va s'y retrouver, mais il faut le salarié français s'y retrouve. Mais il faut aussi que le consommateur soit d'accord pour payer un peu plus cher le prix d'un t-shirt, de chaussures ou de lait.
Surtout, parce que qu'il soit d'accord, c'est une chose, mais qu'il puisse. Moi, j'aimerais bien que ceux qui peuvent le fassent, et ceux qui ne peuvent pas, nous, qu'on les aide. En fait, moi, je suis vraiment pour l'inclusion sociale.
Un des enjeux aussi sur lequel je voudrais insister, c'est la pédagogie et la connaissance. Je reviens à cette étude EDF Obscope qu'on réalise tous les ans. On mesure notamment le niveau de climato-sceptique dans le monde.
Donc, ça existe encore, les climato-sceptiques ?
Oui, ça existe encore. On a un tiers de la population dans les 30 pays qu'on a interrogés qui est climato-sceptique. Alors, climato-sceptique, ça veut dire quoi ? Il y a deux catégories dans les climato-sceptiques. Il y a ceux qui disent « non, il n'y a pas de réchauffement climatique ». Ça, il y en a à peu près 10%. Et il y a ceux qui disent « oui, il y a un réchauffement, mais l'être humain n'en est pas responsable ». Et ça, du coup, donc j'ai dit un tiers, on est plutôt sur 23, un quart de la population.
Mais
est-ce que
parce que j'ai toujours foi en l'humain, et je veux toujours que l'humain est profondément bon, tu ne penses pas qu'ils font ça parce qu'ils ont peur qu'ils répondent ça, parce que...
Si.
Comment on peut être climato-sceptique aujourd'hui, quoi, quand on voit ce qui se passe, enfin, est-ce que ce n'est pas pour se dire, non, je mets des œillères parce que j'ai peur, et que du coup, j'essaie de me convaincre qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas, mais comment sinon, factuellement, tu peux...
Oui, alors je suis d'accord qu'il peut y avoir des peurs. Après, ce qui est assez intéressant, c'est de voir dans quels pays sont les plus climato-sceptiques, et ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup dans les pays producteurs de pétrole. Donc, États-Unis, tu as quasiment la moitié de la population qui est climato-sceptique, 46%. Donc, ce n'est pas forcément rassurant, puisque à partir du moment où tu es climato-sceptique, forcément, tu ne vas pas mettre en place un comportement vertueux.
Mais ce n'est pas rassurant du tout de savoir
que ça... Non, je suis désolé.
Non, mais ce n'est pas grave. On a besoin. En fait, on a besoin parce que moi, je suis contre l'éco-anxiété. Je suis pour aussi donner la parole et mettre en lumière les solutions. C'est aussi l'objectif de l'empreinte. C'est essayer de comprendre ce qui se fait de bien pour se dire on bouge, mais il faut rappeler. Tu vois, je ne suis pas trop lanceur d'alerte parce qu'il y en a plein qui le font et qui le font mieux que moi parce que j'essaie de toujours positive. Mais c'est important aussi que tu rappelles que, en fait, non, il faut continuer. Il ne faut pas lâcher parce qu'en fait, il y en a encore qui sont réfractaires et il faut faire passer les messages. Donc, je pense qu'on a besoin de vous, en fait, aussi pour avoir des études. Typiquement, annoncer ça, montrer des études. On peut les retrouver où, ces études-là ?
Ça, sur Internet.
Sur Internet, en open...
Obscope, EDF, Ipsos, je pense.
Vous allez faire un tour. Non, mais je pense que c'est hyper intéressant. Et même si nous, on peut après relayer, je pense que c'est important de montrer ça.
Oui, la pédagogie, parce que les gens sont climato-sceptiques.
Et la bonne information, l'accès à l'information.
La bonne information. Et après, l'autre frein pour lutter contre le réchauffement climatique, démocratique et avoir des comportements responsables, c'est que les gens ne savent pas quel comportement mettre en place.
Encore
en
fait, parce que pourtant, ça, on n'arrête pas d'en donner des astuces.
Ils sont paumés, en fait. Tout ce qui est alors déjà, dans les problèmes environnementaux, avant le réchauffement climatique...
D'ailleurs, on sait d'arrêter de manger de la viande, on le dit. Ça, on ne peut pas passer à côté. La personne qui a son pichenec, elle va dire « Ah, je suis hyper responsable ».
Ouais, mais les gens ne se rendent pas compte que ça a énormément d'impact. Quand on leur dit « C'est quoi les comportements que vous mettez en place pour lutter contre le réchauffement climatique ?» Tu sais, le premier, lequel c'est le tri des emballages. Qui arrive bien loin devant isoler mon logement, manger moins de viande, prendre moins les transports. Les gens n'arrivent pas à hiérarchiser et à mesurer. En fait, c'est vrai qu'il y a quand même aussi beaucoup de chiffres qui circulent sur Internet. Il n'y a pas des chiffres à peu près clairs. Tout le monde doit faire preuve de pédagogie, les autorités publiques, l'État, les collectivités locales, l'école, l'éducation, les parents, les entreprises aussi, si elles peuvent. Mais bon, ce n'est pas forcément non plus leur rôle de faire ça, mais il y a en tout cas un manque d'information qui fait que les gens, déjà, il faut qu'ils identifient le problème, qu'ils acceptent qu'il existe, et ensuite, une fois qu'ils l'ont identifié, il faut qu'ils se disent « je sais quel est le geste à mettre en place », et ensuite, il faut les convaincre que chacun puisse, à son niveau, comprendre, croire et être sûr que c'est l'action collective. Mmh. Parce que c'est ce que nos enquêtes aussi montrent beaucoup, c'est quand on leur dit qui doit agir, qui doit faire quelque chose, c'est l'État ou c'est les entreprises.
Après, il faut que tout le monde... Il faut de la réglementation, c'est sûr. Il faut que les entreprises aussi soient force de proposition et il faut que le consommateur adhère. Donc, on est tous embarqués là-dedans. Merci beaucoup, Guillaume. Et moi, je vais aller consulter d'ailleurs ces données parce que je suis hyper curieuse et je pense que je vais apprendre plein de choses. J'espère ne pas finir au Lexomil ce soir en lisant les études. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.